Chers frères et sœurs, prêtres qui êtes venus particulièrement nombreux, diacres, consacrés, fidèles du Christ laïque, séminaristes, et vous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Lapourdi et de Radio Présence. Rassemblés dans cette cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, nous nous préparons à entrer dans le Triduum pascal, en anticipant ce soir la célébration de la messe chrismale qui devrait se tenir, selon le calendrier liturgique, le jeudi saint. Si à l'heure actuelle nous mettons l'accent plutôt sur la bénédiction de l'huile des malades et de l'huile des catéchumènes et sur la consécration du Saint-Crème, à l'époque où la pénitence publique a été instaurée, signifié par le rite des cendres, l'évêque procédait, le jeudi saint au matin, à la réconciliation des pénitents, afin de les admettre à la célébration du mystère pascal avec un cœur purifié. Remarquez bien que cette démarche aurait tout son sens en cette année jubilaire, où nous sommes invités à faire l'expérience renouvelée de la miséricorde du Seigneur et à pratiquer la remise des dettes intérieures en particulier. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, selon le texte original de la prière du Pater que Jésus a enseigné à ses disciples. Quelle démarche avons-nous déjà risqué pour nous réconcilier avec tel ou tel de nos frères? Démarche que j'ai recommandée particulièrement aux prêtres, alors que nous voulons aujourd'hui manifester l'unité de notre presbytérium rassemblé autour de l'évêque et appelé à renouveler publiquement les promesses de l'ordination sacerdotale. En instituant en 1300 les années jubilaires tous les 25 ans, le pape Boniface VIII renouait avec la grande tradition de l'Ancien Testament, telle qu'elle est fixée dans le livre du Lévitique. Ce faisant, il entendait encore proposer à toute l'Église d'anticiper le jubilé d'éternité annoncé par Jésus lui-même, lorsque dans la synagogue de Nazareth, comme nous venons de l'entendre, il s'attribuait cet oracle du prophète Isaïe. Il m'a envoyé annoncer une année favorable accordée par le Seigneur, dans lequel le Christ nous a précédés lui-même en ressuscitant le premier jour de la semaine, devenu pour nous le huitième jour, symbole par excellence du sabbat éternel. L'année jubilaire nous place en effet dans l'exacte perspective de la vie éternelle, nous réveillons de notre torpeur, prisonniers que nous sommes bien souvent, de réalités par trop contingentes, temporelles, organisationnelles. En contemplant l'onction de Jésus, qu'il a établi Christ et Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Nous rendons grâce, chers frères et sœurs, pour notre participation à sa consécration qui fait de nous tous, ici rassemblés, un royaume et des prêtres, selon les mots de l'Apocalypse, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe, « Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants, ministres de notre Dieu. » Cela veut dire, chers frères et sœurs, que nous sommes tous prêtres, vous avez bien entendu, nous sommes tous prêtres, par le baptême en effet, qui plus est par la confirmation qui a pour objet le plein déploiement en nous de la grâce baptismale, nous sommes incorporés au Christ et nous recevons de lui comme de notre tête et grâce après grâce. Et parce que Jésus est spécifiquement l'apôtre et le grand prêtre de notre confession de foi, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à qui Dieu dit « Tu es prêtre pour l'éternité », selon l'ordre de Melchisédek. Le baptême nous donne d'avoir part réellement à son onction sacerdotale. Le Concile Vatican II l'a appelé le sacerdoce commun des fidèles, appelés à donner le témoignage d'une vie sainte. Et la sainteté du baptisé, de tout baptisé, est proprement sacerdotale, comme l'apôtre Paul l'écrit aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et en effet, le propre du prêtre est de rendre un culte à Dieu par l'offrande de sacrifice, comme le dit encore l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Tout grand prêtre, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. C'est ce que le Christ a réalisé dès le premier instant de son incarnation, comme nous le révèle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui met dans la bouche du Verbe, en entrant dans ce monde, ces paroles du psalmiste « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et de commenter un peu plus loin, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Dans le même sens, l'apôtre Pierre précise « Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'apôtre montre bien ici que c'est seulement par la médiation du Christ, grand prêtre, que les fidèles peuvent exercer effectivement leur sacerdoce baptismal. Pour rendre présent son sacrifice rédempteur à toutes les générations, jusqu'à la fin du monde, Jésus a institué en même temps l'Eucharistie, où s'accomplit le sacerdoce commun des fidèles, comme en son sommet et en sa source, et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique. Comme nous le chanterons dans la préface de cette messe, « Dans ton amour fraternel, dans son amour fraternel, le Christ choisit des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. » Chers frères et sœurs, je vous invite ce soir à rendre grâce pour le sacerdoce des prêtres, appelés par leur configuration ontologique au Christ prêtre, à rendre présent au cœur de son Église le grand prêtre miséricordieux et fidèle qui a traversé les cieux, qui est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel, toujours vivant, pour intercéder en notre faveur. Sans les prêtres, vous ne pouvez pas exercer votre sacerdoce baptismal. C'est le Christ grand prêtre que nous contemplons dans tout prêtre et auquel nous avons directement accès par son ministère. Je dirais même que si le prêtre n'était pas configuré au Christ prêtre, c'est alors qu'il y aurait le plus grand risque du cléricalisme, car le prêtre serait totalement autoréférentiel, là où le sacerdoce hiérarchique révèle précisément, selon l'étymologie de ce mot, l'origine sacrée de son pouvoir, qui n'est autre que celui du Christ, auquel il est appelé précisément à référer le peuple de Dieu. En ce sens, soyez sûrs, chers frères et sœurs, que lorsqu'un prêtre a failli, et nous avons bien des raisons aujourd'hui de le déplorer, comme de prier particulièrement pour les victimes des abus dans l'Église, le sacerdoce de Jésus pour autant demeure intact. La lumière brille dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas arrêtée, écrit saint Jean dans le prologue de son évangile. Cela ne nous dispense pas ô combien de travailler à la protection des mineurs et des plus vulnérables, comme à l'éducation, à la prévention des abus et à l'amendement des coupables. Nous le devons particulièrement aux victimes. Mais nous devons garder ensemble les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de notre foi. Je vous invite d'autant plus, chers frères et sœurs, à tisser des relations de communion fraternelle avec vos prêtres. Entendons en ce sens, alors que le soupçon et la méfiance sont entretenus par la médiatisation quotidienne des scandales, cette exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux que nous voulons prendre chacun pour soi-même. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre confiance, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Et vous, chers prêtres, dont je suis malgré mes limites et mes lacunes, à la fois le père, le frère et l'ami, avez-vous conscience que votre mission consiste essentiellement à former le peuple sacerdotal et à faire entrer ainsi les fidèles qui vous sont confiés dans l'âge sacerdotal, c'est-à-dire dans l'âge adulte, dans la foi? L'huile des catéchumènes que je vais bénir vous rappelle que vous êtes d'abord appelés à faire des disciples qui se forment à travers l'écoute de la parole de Dieu lue en Église, et apprennent à combattre l'adversaire avec la force de Dieu, dont l'huile est précisément ici le symbole. Il s'agit ensuite de les initier au sacrement, à commencer par le baptême et la confirmation, qui les sanctifie par l'onction du Saint-Crème que je vais consacrer, pour qu'ils deviennent un sacerdoce saint, afin de participer pleinement à l'offrande du sacrifice eucharistique. Par leur participation consciente, active, fructueuse, ils pourront, sous votre conduite, donner une forme eucharistique à toute leur existence par l'offrande de leur vie en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, en se gardant bien de prendre pour modèle le monde présent. L'huile des malades, enfin, que je vais bénir, vous invite à exercer un ministère de compassion auprès de tous ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur corps, et à les aider avec douceur et délicatesse à s'unir ainsi à l'oblation du Christ pour compléter dans leur chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Chers prêtres, voyez les trésors que l'Église a déposés en vos mains pour former le peuple sacerdotal, appelé premièrement à chanter la louange du Seigneur, tant dans la vie concrète que dans la liturgie, afin que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, comme nous le disons dans la troisième prière eucharistique. Chers frères et sœurs, j'ai voulu insister ce soir sur la dimension sacerdotale de tous les membres du peuple de Dieu, ce qui me fait dire que toutes les vocations trouvent leur origine dans le cœur sacerdotal de Jésus. On peut même affirmer que les prêtres naissent et grandissent dans l'humus sacerdotal du peuple de Dieu. S'il ne fait pas de doute que la prière pour les vocations reste le moyen privilégié que Jésus a donné à ses disciples pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa moisson, nous sommes tous appelés, en prenant au sérieux notre participation au sacerdoce du Christ, a engendré une culture vocationnelle, un humus sacerdotal, d'où surgiront, j'en suis convaincu, de nombreuses vocations au sacerdoce. D'ailleurs, si nous nous réjouissons de voir augmenter de manière si sensible le nombre des catéchumènes adultes, jeunes pour la plupart, alors que nous ne récoltons pas forcément ce que nous avons nous-mêmes semé, je ne doute pas que le Seigneur nous enverra de nombreuses vocations sacerdotales pour accompagner ces catéchumènes et les conduire eux-mêmes jusqu'à la maturité de la foi. Confions particulièrement à la Vierge Marie, nos catéchumènes, qui s'apprêtent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne lors de la prochaine vigile pascale, mais aussi nos prêtres, qui se dévouent sans compter au service des âmes, nos séminaristes et tous ceux qui discernent leur vocation, afin que le Seigneur leur donne la docilité à l'écoute de sa parole et la force de répondre « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». La bienheureuse Vierge Marie, femme eucharistique, selon l'expression de saint Jean-Paul II, est la mère du Christ grand prêtre, et par son offrande étroitement unie à l'oblation de son Fils, elle est l'éducatrice par excellence de notre sacerdoce. Confions-lui très spécialement les vocations sacerdotales dont l'Église a tant besoin. Amen.